C'est quand même fou qu'on ait pas d'intro.
Ouais, on n'a pas d'intro. Bah, en vrai, on s'en fout, non ?
On fait sans intro.
Oui, de toute façon, vous n'êtes pas là pour qu'on vous dise bonjour.
Vous êtes là pour qu'on vous dise bonsoir. Ciao. Bonsoir.
Bah ouais, voilà. Ciao, bonsoir, la commu.
Bonjour le monde du podcast. Aujourd'hui, vous me retrouvez toute seule. C'est Emma. Je vous annonce, et oui, en exclusivité, qu'il y aura certains épisodes où nous serons seuls. Donc parfois, ce sera Lola, parfois ce sera moi. Ce qui fait que nous avons un panel absolument gigantesque d'options. Donc parfois Emma seule, parfois Lola seule, parfois des épisodes en duo, et avec des invités d'autrefois. Et oui, on ne se lasse pas de tous les plaisirs que le monde peut nous offrir. Donc aujourd'hui, je viens avec ce petit morceau de bonheur que je vous apporte, qui est donc un sujet que j'ai préparé de mon côté. Personne n'est au courant dans cette pièce de ce dont je vais parler. Et oui, peut-être que je vais casser la baraque. Non, en fait, le sujet que je trouvais important aujourd'hui et qui me trotte dans la tête, et en fait parce qu'on a eu beaucoup de questions à ce sujet-là, c'est comment être sûr que son agent est le bon agent pour toi. Sans remettre en question, par exemple, les capacités d'un agent, parce que parfois un très bon agent pourrait ne pas être adapté à un profil de créateur ou de créatrice de contenu. Donc en fait, dans cette jungle d'options qu'on a aujourd'hui, je dis jungle parce qu'en fait, le métier d'agent, il commence quand même à devenir assez connu, et aujourd'hui, on en a quand même le choix. Quand on cherche à se faire accompagner, il y a quand même pas mal d'options entre un agent indépendant, des petites agences comme peuvent l'être Aura, par exemple, où on n'est pas, c'est pas une mastodonte, quoi. Et après, effectivement, il y a des plus grandes agences, celles qu'on connaît, Follow, Webedia, pour ne citer qu'elles. Et donc, déjà, dans tout ce panel-là, ça laisse déjà le choix. Et ensuite, si on se part vers un agent indépendant ou des plus petites, ça laisse quand même à se poser la question sur vers qui je me tourne, parce que, encore une fois, à niveau équivalent, deux agents à niveau équivalent, pardon, ne seront pas forcément adaptés à votre profil, parce qu'ils n'ont pas forcément les mêmes affinités, les mêmes compétences, etc. Donc là, on se fait un petit focus. Comment on trouve un agent qui va vraiment fitter avec vous, où on ne peut pas être sûr à 100% que ce soit l'agent parfait, mais peut-être qu'on peut déjà se donner des petites billes pour aider à trouver quelqu'un qui va vous correspondre. Déjà, un truc que je trouve important, c'est essayer de trouver un agent qui accompagne des profils qui ont à peu près la même taille de communauté que vous, pour la simple et bonne raison que gérer des deals pour des talents qui ont 1 million d'abonnés et gérer des deals pour des talents qui ont 10 000 abonnés, ça n'engendre pas du tout les mêmes process et les mêmes documents de validation, étapes, typologie de marque aussi, parce que quand on se paye Squeezie, par exemple, on est en général une grosse entreprise. Quand on se paye un talent à 10 000 abonnés, on est en général une plus petite entreprise. Donc, qui dit plus petite entreprise, dit parfois plus de pédagogie sur ce que c'est l'influence, mais beaucoup moins d'étapes de validation, et en tout cas, c'est des étapes beaucoup plus simples à passer. Là où, quand on gère, effectivement, si on reprend l'exemple de Squeezie, on est en général sur des plus grosses boîtes, avec des process bien plus huilés, beaucoup moins de personnes à convaincre de l'importance de faire de l'influence, mais par contre, des contrats beaucoup plus musclé, quoi, du contrat, avec des pages longues, écrites, vraiment avec beaucoup de texte, et donc potentiellement des vraies compétences en termes juridiques pour relire le contrat. Donc ça n'implique pas les mêmes choses. Donc essayez de trouver quelqu'un qui, genre si vous avez 100 000 abonnés, essayez de trouver quelqu'un qui gère des talents entre 50 et 200 000 abonnés, c'est dans votre moyenne à vous, et ça sera déjà très bien. Ça veut pas dire qu'un agent qui gère que des gens à 100 000 abonnés ne pourra jamais gérer des gens à 500 000, mais en tout cas c'est rassurant de savoir qu'on gère à peu près votre tranche d'abonnés. Ensuite, ce qui peut être intéressant, c'est quelle niche il a déjà en termes de talents. Est-ce que ces talents sont 100% des gens qui font de la food ? Et auquel cas, si vous arrivez avec des sujets automobiles, bah, ça peut être un peu compliqué parce que ça veut dire qu'il n'a aucune connaissance de votre marché, de vos clients. Ça veut pas dire qu'il pourra jamais le faire. Mais en tout cas, si de base, vous n'avez pas un portefeuille client établi, ça va être très compliqué. Parce que lui, il va devoir se faire une place dans ce marché, vous faire connaître auprès d'eux, alors que de base, il n'a aucune connexion avec eux. Et ça, ça nous est arrivé d'ailleurs d'accompagner un profil sur une niche qu'on ne connaissait pas du tout, et c'est beaucoup plus long. Ça veut pas dire que ça n'arrive jamais, mais par contre, bah, nous, il faut qu'on aille à la conquête, enfin, on part reconnaître, en tout cas, une nouvelle frange du marché, et donc tout ce temps-là, c'est potentiellement du temps où il se passe pas grand-chose. Après, si vous arrivez avec vos clients et que vous avez déjà un portefeuille client bien établi, et qu'en fait l'accompagnement d'un agent n'est souhaité que parce que vous voulez vous délester de cette charge-là de négociation, on s'en fiche un petit peu. Après, par contre, si la personne ne fait effectivement que de la food et que vous faites de l'automobile, il est probable que ça, votre sujet ne l'intéresse pas forcément, mais si après discussion, ça vous parle et que tout le monde a envie de travailler ensemble, il faut pas que ce soit un frein, en tout cas pas si votre portefeuille client est déjà plus ou moins établi. Ensuite, assurez-vous que humainement, vous possédez à peu près des valeurs équivalentes, je dirais, enfin qui se ressemblent, en tout cas qui peuvent se rejoindre, parce que quand vous choisissez un agent, vous choisissez pas un prestataire, vous choisissez pas un ami non plus, très important et on l'a déjà évoqué dans un autre podcast, mais vous choisissez quand même quelqu'un à qui vous allez devoir confier beaucoup de choses de votre vie personnelle, et on va devoir vous accompagner sur plein de... Alors attention, je vais pas dire un truc péjoratif, mais plein de micro-crises d'existence du quotidien. C'est-à-dire que dans le quotidien, on a tous des... Dans le quotidien personnel ou professionnel, mais là, surtout professionnel, on a tous des éléments de micro-friction, de petits trucs qui nous agacent au quotidien. Et en général, la relation avec votre agent fait que votre agent va être souvent au courant de ces petites frictions, des choses qui vous agacent quoi, au quotidien, que ce soit avec votre client ou avec, une gestion particulière de la création de votre contenu. Enfin voilà, des petits trucs qui vous agacent, quoi. Si vous vivrez pas ensemble sur la même fréquence, il est très probable qu'à un moment ça crée des trucs de « qu'est-ce que tu es en train de me faire ? Je ne te comprends pas ». Et si votre agent ne vous comprend pas, ça peut mener à des situations qui sont franchement pas très agréables. Si on est deux personnes intelligentes, on les met sur la table et on discute, mais ça peut aussi amener à juste vous devenir insupportable l'un pour l'autre. On préfère éviter ça. Donc essayez de vous assurer de bien rencontrer votre agent avant, de s'assurer que quand on discute évidemment de professionnel, mais on va aussi aller gratter quelques petites choses sur le personnel, en tout cas sur comment on est quand on travaille. Après, sentez les choses aussi, enfin je veux dire, il y a quand même une part de feeling là-dedans. Nous, quand on rencontre les talents qu'on va accompagner ou qu'on a, enfin, notre rendez-vous préliminaire avant de choisir qu'on se choisit, on sait déjà si on va aimer travailler avec cette personne ou pas. Donc, essayez de faire confiance aussi un peu à votre instinct, et si vous ne le sentez pas, n'y allez pas. J'ai rencontré il n'y a pas longtemps quelqu'un qui n'est pas chez Aura, mais avec qui j'ai eu une grande discussion parce qu'elle était en agence et elle est partie de cette agence parce que humainement avec son agence c'était vraiment horrible pour elle. Je pense que c'est des erreurs qu'on peut un petit peu éviter en prenant le temps, mais après je sais qu'aussi certaines agences sont très incisives, de genre t'arrives dans les bureaux, il faut qu'à la fin du rendez-vous t'aies signé le contrat quoi. Donc déjà ça, si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, déjà tournez-vous vers d'autres options. Il y a plein d'agences qui ne fonctionnent pas comme ça et sur lesquelles personne ne va vous mettre la pression pour signer un contrat que vous n'avez pas lu, qu'on vous donne à la fin d'un rendez-vous et qu'on vous dit voilà, il faut le signer maintenant, sinon après il sera trop tard. Non, ciao. Si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, partez et signez un contrat chez quelqu'un d'autre. Après, dans les autres choses qui me semblent importantes pour trouver un bon agent, trouvez une agence qui a un équilibre juste entre le nombre de talents accompagnés et le nombre de personnes qui travaillent dans l'agence. Parce que si vous, on va se le dire honnêtement, si vous êtes un grand talent par rapport aux autres talents de l'agence, ce sera pas un problème. Il peut y avoir genre 40 talents pour deux personnes, c'est ok. Si vous êtes un grand, vous passerez forcément en prio. En tout cas, la plupart du temps, dans les agences, notamment celles à la commission, vous allez rapporter plus d'argent, donc immédiatement vous êtes plus intéressant. Si vous êtes un petit, par contre, c'est là où le bât blesse, n'est-ce pas ? Puisque vous allez passer après tout le monde, puisque sur vos commissions, grosso modo, votre agent va toucher, je sais pas, si on part du principe que vous êtes sur une commission à 25% et que vous êtes un petit talent, donc ça veut dire qu'en moyenne, vos deals sont entre, je sais pas, ce qu'on qualifierait de petit talent, ça va être entre 500 et 1000 euros. Votre agent, au plus, il se fera moins de 500 sur chacun de vos deals, quoi. Et avec un travail beaucoup plus intense de présentation à des clients. Donc forcément, vous devenez juste une photo qu'on met sur une presse pour dire qu'on accompagne plein de gens, mais vous n'êtes pas financièrement assez intéressant pour qu'on se batte pour vous au quotidien. Alors que si vous êtes dans une agence avec taille raisonnable entre les salariés et les talents, vous devenez un combat pour chaque personne. Enfin, pour la personne qui s'occupe de vous, vous devenez une partie de son combat. Enfin, en tout cas, une partie de son quotidien. Je peux pas donner de ratio aujourd'hui de un agent devrait s'occuper de tant de personnes. Ce serait très hypocrite de ma part et surtout, je pense pas avoir la science infuse sur cette connaissance-là. Déjà parce que la façon dont nous on fonctionne est tout à fait différente des autres agences, donc je pourrais vous parler de nous, mais ce serait très compliqué d'évoquer le reste du marché, qui est juste 99% des autres, quoi. Nous, c'est très simple, puisque on fonctionne, enfin, nos talents commandent des journées de travail, bah moi, je sais que si j'ai 20 talents qui me prennent un jour, c'est tout à fait ok, puisque dans un mois, il y a 20 jours ouvrés. Donc je suis correcte. Mais par contre, si j'ai 4 talents qui me prennent 5 jours, on revient à la même logique, j'ai 20 jours de travail et je peux pas en prendre plus. Bon bah aujourd'hui ça s'équilibre puisque la vie fait que j'ai ni 20 talents qui me prennent un jour, ni 4 qui m'en prennent 5. On a un peu de tout. Mais voilà, moi je sais que notre limite chez Aura, c'est que on soit tous staffés à en réalité un peu moins de 20 jours travaillés puisque mon quotidien n'est pas que de faire du talent management. J'ai aussi la gestion de l'entreprise à côté, plein d'actes de développement de l'agence en soi, donc je peux pas passer 20 jours sur mes talents, c'est pas possible. On revient dans l'arrière-cuisine, je vous emmène avec nous dans les backups, on va au stud. En réalité, c'est un peu ce qu'on fait quand même, parce que bah voilà, le début d'une société, donc donc ça implique forcément qu'on fasse un peu plus que quand on sera avec plus de salariés et que ce sera plus confortable. Aujourd'hui, je crois quand même qu'on travaille plus de 20 jours pour nos talents et qu'à côté de ça, le temps de la vie, le temps perso sur lequel on empiète un petit peu quand on est une société, sert à faire tout le reste. Mais grosso modo, voilà, essayez de trouver un équilibre juste. Prenez en considération le fait que si vous avez une personne qui s'occupe de 20 talents, vous serez soit une top priorité si vous êtes quelqu'un bankable aux yeux de l'influence, soit le cadet des soucis si vous êtes un petit talent. Et en fait, c'est tout le problème, puisque quand vous cherchez un agent, vous cherchez quelqu'un qui va vous aider à grandir. Et si cette personne n'est concentrée que sur « c'est un petit, il ne me rapportera rien », vous n'allez jamais grandir. Vous n'allez jamais avoir les conseils que vous espérez avoir. Et ensuite, le dernier truc, c'est intéressez-vous au parcours de votre agent. Globalement, on est à peu près tous sur LinkedIn quand on est agent de créateur et de créatrice de contenu. Allez regarder ce que cette personne a fait avant, quel type d'études et quel autre poste il a occupé. Ça va vous en dire long sur les capacités qu'il a à vous accompagner et sur ce qu'il va pouvoir vous apporter en plus. Par exemple, aujourd'hui, on retrouve des grandes catégories, parce que personne n'est sorti d'études et a fait agent, quoique dans la génération qui arrive, potentiellement, oui. Mais en tout cas, dans ma génération à moi et les gens un petit peu plus vieux, on a tous eu d'autres postes avant d'être agent, ça c'est évident. Et ce qu'on a fait avant, bah, ça peut être assez large. Il y a beaucoup de gens qui viennent du social media, donc de la stratégie social media pour des marques. Donc là, en général, ces profils-là sont très adaptés si vous voulez faire évoluer votre création de contenu, si vous voulez vraiment avoir un accompagnement stratégique sur les contenus et votre stratégie éditoriale. Il y a des gens qui viennent de la prod, j'ai pas besoin de vous expliquer pourquoi ils seront utiles, pour la prod, et oui. Il y a des gens qui viennent d'autres secteurs. Il y a aussi beaucoup de talents images, donc des talents images qui étaient plutôt réservés aux personnalités publiques et qui maintenant se mettent aussi à l'influence. Eux, ils sont excellents sur l'image. Et oui, c'était dans le nom. Parce que juste, c'est ce qu'ils ont géré depuis des années sur d'autres profils. Donc, quand vous arrivez avec... Enfin, eux, ça peut être très utile de vous tourner vers eux. Si vous sentez que l'image que vous reflétez aujourd'hui n'est pas celle que vous souhaiteriez avoir pour toujours. Ils vont vous aider à opérer ce shift vers l'image souhaitée. Après, je suppose qu'il y a encore plein d'autres gens. Je ne vais pas faire le détail de tous les profils, mais en tout cas, intéressez-vous bien à ce qu'il a fait avant. Si dans la discussion, ce n'est pas venu avec lui, encore une fois, allez checker sur LinkedIn. Et à partir de là, essayez de comprendre ce qu'il a fait avant et comment ce qu'il a fait avant influence forcément sa façon de voir son métier aujourd'hui. Et ça, ça peut être très important parce que ça va combler un besoin que vous recherchez ou non. Donc voilà, je pense que je vous ai dit pas mal de petits trucs que j'avais en tête sur comment trouver quelqu'un qui va vraiment correspondre à vos besoins. Encore une fois, ça reste quand même une recherche qui est très spécifique. On fera un épisode aussi sur quand est-ce que c'est le bon moment pour vous de prendre un agent. Parce que ça, je pense que c'est intéressant et on a aussi souvent la question dans nos DM ou dans nos mails de gens qui nous disent « voilà, j'en suis là ». Est-ce que c'est le bon moment pour moi d'avoir un agent ? Je fais du teasing, c'est nouveau, mais on en fera un épisode parce que je vois que c'est une question qui revient souvent pour beaucoup de monde. Mais en tout cas, sur déjà comment trouver votre agent, vous avez des bribes de réponses. Après, n'hésitez pas à interroger plusieurs agences pour vous aider. Faites votre choix, en fait, c'est un peu comme pour tout. Quand vous voulez aller acheter, je sais pas, un appartement, on n'en visite pas qu'un. Bon, bah quand vous choisissez un agent, allez en voir plusieurs, c'est un peu le jeu, prenez plusieurs rendez-vous. Peut-être qu'il y a des agences d'ailleurs qui vont vous dire non parce qu'elles ne veulent pas, d'un talent comme vous, c'est pas tout à fait ce que je veux dire, mais soit elles sont au staffing maximum et elles peuvent pas prendre plus de talent, soit vous n'êtes pas un profil qui les intéresse. Donc renseignez-vous, contactez plusieurs agences, c'est le jeu et ça fait évidemment partie de... Enfin, nous, quand un talent nous contacte, on se doute qu'on n'est pas les seuls à être contactés, quoi. Donc, contactez plusieurs personnes. Ensuite, faites-vous confiance, mais aussi utilisez les petits tips que je vous ai donnés aujourd'hui, parce que je pense que ça peut déjà vous guider, en tout cas vers celles qui peuvent être adaptées à votre profil ou pas. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne matinée, selon quand vous écoutez ce podcast. Et puis, je vous dis à la prochaine. Aujourd'hui, je suis toute seule pour dire ciao. Swan, tu veux m'aider ?
Ouais, si tu veux.
Ciao !
Bonsoir !
Excellent.